France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Denis Labelle, bonjour.
Bonjour.
Nous avions à l'antenne de l'Union rationaliste le 28 février 2021 invité le docteur Bernard Senet, médecin généraliste, adoré de ses patients, d'une très grande bonté, d'une absolue générosité, qui se voit aujourd'hui traîné en justice de façon infamante, je risque le mot, pour avoir été complice du délit d'importation en contrebande de pentobarbital dans un procès qui se déroule aujourd'hui, du 15 septembre au 9 octobre, au tribunal de justice de Paris. L'histoire remonte à juillet 2019, quand les douanes américaines observent des importations de pentobarbital venant du Mexique et transitant par les États-Unis vers la France et d'autres pays d'Europe. Une perquisition a lieu au petit matin en France par 300 officiers de police judiciaire chez 140 personnes dont l'âge moyen avoisine 78 ans, adhérents pour la plupart de l'association Ultime Liberté qui milite pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie volontaire. La police saisit alors leurs papiers, leurs ordinateurs et les 130 flacons de pentobarbital qui se trouvent chez ces différentes personnes. J'évoque en un mot la violence matinale qui est faite sur ces personnes âgées, voire très âgées, souvent malades, et qui se voient traitées de trafiquants de drogue. Sur ces 140 personnes, environ 12 seulement d'entre elles sont renvoyées au prétoire et accusées de délits d'importation en contrebande de produits illicites, dont le docteur Bernard Senet, qui lui est accusé d'être complice de ce délit d'importation. Tels sont les faits. Maintenant, je voudrais évoquer rapidement le décor un peu curieux de ce procès auquel j'ai la chance d'assister. S'y opposent de façon très saisissante de très jeunes personnes de 30 à 40 ans, la présidente de la Chambre 31, la procureure, et un flot de cheveux gris, des personnes deux fois plus âgées, ayant tellement plus d'expérience de la vie que ceux qui les jugent, parmi les prévenus et dans la salle, autant de militants d'Ultime Liberté et du Choix, autre association luttant pour une aide médicalisée à mourir et un changement de la loi en France, association dont vous, Denis Labelle, vous avez été 3 ans président. Entre eux, rien n'est commun, ni la culture politique entre les juges et les prévenus, rien de commun, ni la culture politique, ni l'expérience de la vie, ni le langage. Quand la présidente parle de trafic ou d'importation illicite de substances vénéneuses, les autres s'offusquent, sachant bien que nul n'y a d'intérêt financier. Quand ces vieux militants frondeurs pratiquent la désobéissance civile, ils se font rappeler à la loi comme des enfants, grondés, loi que précisément ils ne cessent de contester pour son caractère odieusement rétrograde et conservateur. Procès donc d'un monde en mouvement où l'on va condamner peut-être aujourd'hui ce qui demain sans doute ne le serait pas, où de vieux humanistes encourent des peines de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende, alors que tous ceux qu'ils ont aidés les remercient et apprécient leur immense humanité. Vous avez, docteur Labelle, été témoin à ce procès le 22 septembre en faveur de Bernard Senet, dont vous avez partagé de multiples combats avec autant de courage et de ténacité que lui. Tous les deux, vous avez d'abord été au MLAC et cet engagement liminaire me semble très important et très révélateur.
J'ai beaucoup d'affection pour Bernard Senet que je connais depuis 25 ans. C'est en effet un médecin que j'apprécie énormément, qui est un généraliste, je dirais c'est l'idéal du généraliste. Très près des malades, toujours prêt à écouter et toujours prêt à s'engager. Et en plus avec une connaissance sociale et sociologique très forte, ce qui n'est pas fréquent dans notre profession. Alors en effet, on se retrouve au cours de notre vie sur des combats semblables. Comme moi, il a fait partie du MLAC, comme moi et comme lui, nous avons bataillé contre un conseil de l'ordre rétrograde. Et pourquoi le MLAC ? Parce que c'était une évidence pour nous soignants. Moi, quand j'ai surveillé une jeune femme qui venait d'avoir fait une interruption clandestine, qui était en septicémie et que j'ai vu mourir dans la nuit, l'idéologie disparaît. Hein. On devient humain, on se dit plus jamais ça. Et Bernard, je crois, a vécu la même chose que moi. Le problème de fond, c'est qu'en fait, il y a deux idéologies, je dirais deux philosophies différentes. Il y a ceux qui sont pour la vie coûte que coûte, sans définition très précise de la vie. Parfois, on a l'impression que ça commence au spermatozoïde. C'est un peu surprenant. Et puis, il y a ceux qui disent, non, et la vie, bien sûr, on se bagarre pour la vie, mais pas coûte que coûte. Il y a des situations où la souffrance doit être prise en compte et il faut lutter contre la souffrance. Ça devient prioritaire par rapport à la vie coûte que coûte. Et on est en république laïque et donc on doit respecter les deux. Moi, je respecte totalement ceux qui ne pensent pas comme moi, mais je voudrais qu'ils respectent aussi ce pourquoi je pense.
Bien sûr. Comme Bernard Senet, Denis Labelle, vous vous battez pour une aide médicale à mourir.
Si vous voulez, il y a trop longtemps, on nous dit que aider les patients qui le demandent, ce n'est pas du soin, c'est les tuer, enfin, toutes sortes de terminologies inacceptables contre lesquelles je m'offusque et je combats. Je prends le mot « tuer », par exemple, il y en a assez dans les débats, dans les médias, on entend des gens « mais vous tuez les malades ». Non, je n'ai jamais tué personne, c'est absolument évident. Le mot « tuer », ça veut dire retirer la vie de l'autre avec violence et je suis un partisan de la non-violence. Et donc, il y a beaucoup de gens sur Terre qui tuent, mais les victimes, dans ces cas-là, ne demandent rien. Tandis que là, nous sommes face à un esprit de compassion, face à des malades qui demandent qu'on les aide, voilà, qu'ils en ont assez, qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils ont besoin, ils ne peuvent pas toujours faire tout seuls ce geste-là, et qu'ils ont besoin de notre présence. Donc c'est un soin, c'est le dernier soin que l'on peut faire, c'est un soin parce que, et à un moment où la médecine ne peut plus,
donc
ne peut plus rien. Et donc, il faut que ce soit au malade de choisir ce qu'il appelle un soin. Ça peut être pour lui, les soins palliatifs, mais ça peut être aussi le refus de soins palliatifs et le désir de partir. C'est à lui de le définir, la notion de soin.
Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez des soins palliatifs et de la complexité à penser les soins palliatifs aujourd'hui ?
Si vous voulez, le problème des soins palliatifs, c'est que ça fait partie des lois de 2005, puis de 2016, et c'est comme si c'était la solution miracle à tout, et qu'on nous répète, le jour où il y aura des soins palliatifs sur toute la France, il n'y aura plus de problème. C'est un mensonge, c'est évident. D'abord, tous les malades ne veulent pas aller en soins palliatifs. Moi, j'avais des malades qui me disaient, mais j'ai envie de rester dans votre service, j'ai envie de garder les mêmes infirmières, les mêmes aides-soignantes, et j'ai pas envie d'aller dans un service que je ne connais pas. Alors, il y a des très bons soins palliatifs, je ne critique pas du tout, et je pense que c'est utile. Mais le problème en France, c'est que les soins palliatifs sont doctrinaires.
Ça, je crois
c'est
que
un vrai problème.
Le grand public, docteur Labelle, ne le sait pas.
Mais non, ne le sait pas. Mais pourtant, toutes les présidences de la Société française des soins palliatifs ont été des personnes avec une consonance religieuse évidente. Ils ne le cachaient pas. Donc, que les soins palliatifs soient laïcs, soient publics, hein, et qu'appartements ils sont financés par l'État, il n'y a pas de raison que tous les gens ne puissent pas exposer leur point de vue. Donc, je suis pour les soins palliatifs, c'est évident. Mais les soins palliatifs, d'abord, s'intéressent qu'aux malades qui sont au bord de la mort et pas les malades qui sont à quelques distances de quelques mois. Et puis, nous, je peux vous dire que les malades que nous accompagnons en Suisse, en Belgique, viennent de régions où il y a des soins palliatifs. Ça prouve bien que les soins palliatifs ne peuvent pas tout. Ils prétendent pouvoir soulager toutes les douleurs, toutes les souffrances. Ce serait une grande première en médecine. Personne ne peut toujours être parfait. Mmh. Et la morphine, qui est un très bon produit, dans 80% des cas, et ben dans 20% des cas, on est obligé de diminuer les doses parce qu'il y a des effets secondaires majeurs. Les gens vomissent, se mettent en rétention, sont en occlusion, etc. Donc ce n'est pas simple. Et on ne peut pas se dire des magiciens. Il faut être humble. Donc moi je suis pour des soins palliatifs comme en Belgique, comme en Hollande ou comme au Canada, c'est-à-dire sans frontières avec l'aide médicale à mourir.
Je comprends cette position qui est pourtant complexe et qui est très instrumentalisée politiquement. C'est-à-dire qu'on dit si on étend les soins palliatifs, on n'a pas besoin d'une aide médicalisée à mourir. Ce qui est...
C'est assez extraordinaire du reste, lors de la loi, enfin le projet de loi qui a été voté au Parlement... unanimité. Hein, droite, extrême droite, extrême droite, tout le monde est d'accord. Exactement comme pour la loi Leonetti, la loi Claeys-Leonetti. Pour se rendre compte qu'en fait, l'unanimité n'est pas une bonne chose. Il faut un débat avec des pour, des contre. Et c'est toujours douteux, une loi unanime. Hein. Et on nous présente les soins palliatifs comme la solution à tout. Non, c'est une des solutions, une solution importante. Mais il restera toujours des problèmes à côté et de gens qui préfèrent mourir chez eux dans de bonnes conditions et rapidement et ne pas subir l'agonie. Et il y a une loi, dans la loi de Claeys-Leonetti, il y a aussi tout le côté sédation profonde et continue dont je conteste totalement sur le plan éthique la méthodologie. Parce qu'elle impose une déshydratation du corps, c'est inacceptable, médicalement inacceptable. Et c'est une sédation qui n'a rien de continu, c'est une sédation qui est fluctuante et qui aboutit à des agonies prolongées.
Alors justement, comme Bernard Senet, vous en appelez aujourd'hui à une nouvelle loi, laquelle précisément, et que pensez-vous de celle qui est en ce moment au Sénat ?
C'est intéressant parce qu'en fait, il y avait une possibilité de faire une loi à la française, originale, c'est-à-dire prendre à la fois ce qu'a fait la Belgique depuis 25 ans, sans massacre, hein, sans catastrophe, non, humainement, et puis ce que fait la Suisse, qui est autre chose. La Suisse, c'est le suicide assisté, la Belgique, c'est l'aide médicale. L'aide médicale, il y a un médecin, la Suisse, il n'y a pas de médecin, directement, plutôt au moins. Donc il y avait la possibilité de proposer aux malades les deux, de choisir entre les deux. Et du reste, la commission parlementaire avait fait un choix, c'est-à-dire de proposer les deux. C'était vraiment un progrès. Et puis, c'était contre, je dirais, le projet gouvernemental qui, lui, était essentiellement sur le suicide assisté. Essentiellement. Et là, curieusement, au cours d'un débat extrêmement bref, un samedi après-midi, 120 députés seulement présents à l'Assemblée sur les 577, ont rejeté l'amendement qui permettait l'aide médicale à mourir. Et là, j'avoue que j'étais assez en colère.
Je comprends.
Qu'un sujet aussi majeur, aussi important, aussi repris par la commission parlementaire soit comme ça, réglé en l'espace de quelques minutes par quelques parlementaires.
Parce que la grande majorité n'était pas là.
Voilà.
Pour revenir à ce procès, Denis Labelle, indissociable du combat pour une nouvelle loi sur la fin de vie, où les prévenus d'aujourd'hui ne seraient pas contraints de recourir à l'illégalité, que pensez-vous de la désobéissance civile à laquelle sont contraints bon nombre et de médecins et de citoyens ?
Si vous voulez, le problème, c'est qu'en effet, il y a dans l'histoire de la fin de vie une clandestinité qui était plus ou moins officielle en fonction des périodes. Moi, ce que je veux dire, c'est en ce qui concerne même le sujet même du procès, l'importation de substances illicites. Substances illicites de quoi ? Le pentobarbital. Et le pentobarbital a été utilisé jusqu'en 1996. Il y a même une forme de somnifère, le nabutal. Donc, ce produit a été très longtemps utilisé.
Illicite.
C'est vrai qu'en situation, on peut, avec les doses importantes, obtenir un effet létal. Mais ça, on peut l'obtenir avec d'autres produits qui sont absolument dans le commerce. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais étudiant, on faisait des cocktails lithiques, association de l'argactyl, de l'osalphénergan, un sédatif et des morphiniques. Et on obtenait un effet létal et une agonie brève, contrairement à aujourd'hui. Et puis, c'est abusant de voir, au moment du Covid, l'État a autorisé le rivotril intraveineux en ville. Et pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que les personnes âgées qui étaient dans les EHPAD et qui asphyxiaient et qu'on ne pouvait pas prendre, puisqu'on dit au-delà de 80 ans, on ne les prend pas à l'hôpital, il fallait bien trouver une solution. Et la solution hypocrite qui a été née, c'est d'autoriser en mars 2020 le rivotril intraveineux, qui est un sédatif profond et qui a été utilisé pour cela. Donc, produit illicite en fonction de quoi ? De qui ? Et demain, de toute façon, quand il y aura une loi sur la fin de vie, on réintroduira le pentobarbital, comme c'est le cas en Suisse, en Belgique, en Hollande, au Canada et partout ailleurs.
Alors, que dites-vous face à ce procès ?
Je trouve ça, c'est triste. Triste que des médecins comme Bernard Senet, qui sont pour moi des médecins d'une qualité extrême, je le dis franchement, se retrouvent sur le banc des accusés. Alors que tout de même, je m'excuse, mais j'estime qu'on est plus soignant quand on écoute les malades jusqu'à la fin de leur jour et qu'on les aide à partir s'ils le souhaitent, que ceux qui refusent au nom de leur clause de conscience, etc. C'est large, la clause de conscience. Eh bien, ceux-là n'ont pas de problème avec la justice. Et ceux qui prennent des risques d'aller dans le sens humain eh ben, ce n'est pas normal. Moi, je l'ai dit, hein, je pense qu'ils sont... Ce que nous faisons, c'est illégal, mais c'est hautement humain.
Au fond, la morale passe avant le droit.
Voilà, absolument. Je dirais l'humanité, ça passe avant le droit. Quand le droit n'est pas capable de s'adapter à l'humanité.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Denis Labelle, je vous remercie pour vos paroles, vos analyses et votre combat. Et je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez fait paraître chez Plon en 2023, « Le médecin, la liberté et la mort, le droit de choisir sa fin de vie ». Denis Labelle, grand merci.
Merci.
Je remercie Philippe Baudouin, Minetta Diawara et Claire Poinsignon sur France Culture. Je renvoie au site de l'Union Rationaliste et aux deux derniers numéros de Raison Présente qui n'ont que peu de rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Mes deux numéros sur l'écologie. L'écologie, question politique, question sociale. Et le prochain numéro de Raison Présente, qui est sous presse, intitulé « L'eau et les hommes, mythe de toujours, péril d'aujourd'hui ». Je vous dis au mois prochain.